Jacques-Yves Molima.
Ouverture ce mardi de la conférence des Nations Unies sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants. En RDC, la CONADER affirme qu'il reste encore beaucoup à faire pour la prise en charge des ex-combattants. Lancement hier lundi à Kinshasa des travaux de révisitation d'une soixantaine de contrats miniers en RDC pour le ministre des Mines. Ces travaux permettront de mettre fin au paradoxe de la RDC, pays extrêmement riche avec une population extrêmement pauvre. Le comité consultatif de Cabinda accuse le commissaire de district d'avoir détourné 56 000 dollars américains sur des projets financés par la coopération technique belge. Un mémorandum a été déposé hier lundi à l'Agence nationale de renseignement. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'est ce mardi que s'ouvre à Kinshasa la conférence des Nations Unies sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants. Des spécialistes et bénéficiaires africains des programmes DDR de 20 pays différents vont étudier ensemble comment améliorer les processus de désarmement d'anciens belligérants et leur intégration dans la vie civile. À propos de désarmement, la RDC compterait à ce jour 100 000 ex-combattants démobilisés selon la CONADER. Quant à leur insertion, la CONADER indique que plus de 50 000 démobilisés sont pris en charge, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour s'occuper de ces 57 000 autres qui ne le sont pas. On écoute Daniel Kawata, coordonnateur de la CONADER. Il a été joint au téléphone par Pélé Kipelamondo.
Effectivement, il y a environ 80 000 encore à traiter, desquels nous pensons que environ 30 à 40 000 pourront s'ajouter aux chiffres que nous avons atteints présentement en termes de démobilisés.
Après avoir désarmé ces ex-combattants, c'est le problème de la réinsertion.
Oui.
Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire selon vous?
Nous avons démobilisé 102 148. Il y a environ 55 000 qui sont pris en charge. Donc vous allez voir que c'est à peu près aussi le même chiffre qui n'est pas encore pris en charge. Donc à peu près 57 000 qui doivent être pris en charge. C'est là que se trouve notre véritable problème, parce que vous pouvez retrouver dans une ville où il y a 5 000 personnes, 2 000 sont prises en charge, 3 000 ne sont pas encore prises en charge. Et ce sont ceux qui ne sont pas encore prises en charge qui se soulèvent avec des manifestations que nous avons à gauche et à droite. Notre grand défi maintenant, c'est de parachever ce que nous avons commencé, c'est-à-dire résorber le nombre de ceux qui ne sont pas encore pris en charge au travers des programmes.
Ces assises qui se tiendront donc de ce 12 au 14 juin sont organisées par le gouvernement de la RDC et le bureau du conseiller spécial des Nations Unies pour l'Afrique. Le Congo-Brazzaville prendra une part active à cette conférence après avoir inséré 9000 ex-combattants entre 2004 et 2005. Le gouvernement de Denis Sassou Nguesso voudrait réinsérer cette année 30 000 ex-combattants grâce aux 17 millions de dollars reçus de la Banque mondiale. Arsène Severin.
C'est en 2002 que les premiers miliciens sont réinsérés par l'Organisation internationale de migration, OIM. Mais ce fut un échec car les bénéficiaires n'étaient pas de vrais ex-combattants. Avec les 5 millions de dollars de la Banque mondiale, le gouvernement lance lui-même en 2003 le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants. Au total, 9 000 ex-combattants désarmés et réinsérés. Ils avaient reçu des microcrédits de l'ordre de 500 dollars par individu. Fort de ces résultats, la Banque mondiale vient d'accorder un don de 17 millions de dollars au Congo-Brazzaville pour réinsérer 30 000 ex-combattants, dont 5 000 ninjas autour du pasteur Ntumi et 6 000 dans l'armée et de la police. À noter aussi l'identification de plus de 3 500 enfants soldats à réinsérer au cours de ce projet. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Okapi.
Les victimes des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ainsi que celles des crimes de génocide doivent être considérées comme des citoyens capables de contribuer au développement de leur pays. Déclaration du directeur exécutif de fonds au profit des victimes qui est en séjour en RDC à Radio Okapi. André Laperrière entame ce mardi par Bounia dans la province orientale une tournée qui le conduira dans les régions où ces exactions ont été commises. On l'écoute au micro de Jean Gandou.
pense que les gens qui connaissent le mieux leurs besoins sont les victimes elles-mêmes. Alors, notre premier volet, c'est un volet d'écoute. Écouter ce que les victimes ont à dire, nos partenaires potentiels aussi, qui nous aident à identifier les groupes de victimes qui ont été oubliés, les groupes de victimes qui ne sont pas aidés par les autres ou insuffisamment aidés ou possiblement incorrectement aidés malgré leur bonne volonté. Que du moment qu'on a un groupe de victimes qui est identifié, où on connaît les besoins, où on a réussi à établir avec eux un plan d'action, eh bien, on travaille. Hein.
Quelle est la hauteur de l'assistance attendue?
Une assistance efficace ne se mesure pas seulement à la hauteur des sommes qui y sont dépensées. Ce que nous, on pense et on dit à haute voix à tout le monde qui veut bien nous entendre que les victimes sont des citoyens à part entière qui n'ont pas choisi d'être victimes et qui ne demandent qu'un peu d'assistance, qu'un peu de support, un peu d'encouragement pour qu'ils regagnent leur confiance et qu'ils redeviennent des citoyens qui contribuent au développement de leur société.
Notons que ce fonds est constitué des États signataires du traité de Rome, traité qui a créé la Cour pénale internationale. La situation des réfugiés en RDC est différente des autres pays où les réfugiés sont regroupés dans des camps et sont plus faciles à identifier et où il est plus aisé de leur apporter de l'aide nécessaire. C'est le constat de Mme Judy Schenck-Hopkins, au commissaire assistant des Nations Unies pour les réfugiés en séjour en République démocratique du Congo. Au cours d'une conférence de presse tenue au Grand Hôtel de Kinshasa, Mme Judy a relevé que le grand défi du HCR est de donner la protection à l'assistance à plus d'un million de déplacés éparpillés à travers le pays. Le haut commissaire assistant pour les réfugiés au micro de Blaise Shindani Kambala.
Chaque fois qu'on a les succès avec les retours des déplacés, il y a de nouveaux déplacements parce qu'il y a des conflits ailleurs. Alors c'est toujours un problème qui continue. Pour nous, le grand défi, c'est de donner la protection et l'assistance à ces gens déplacés. Surtout la protection contre la violence physique, surtout la violence sexuelle. Protection pour les enfants. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est pas comme la situation dans les autres pays où l'aide, c'est plus facile de livrer. Ici, c'est une question de gens toujours en mouvement qui habitent avec famille haute et ils sont complètement dispersés. Et là, c'est un grand défi de trouver ces gens pour identifier les problèmes et pour donner l'aide comme ailleurs.
En Ituri, environ 100 armes et 300 munitions ont été officiellement remises ce lundi au FRDC. Il s'agit des armes récupérées auprès du Front des Nationalistes et Intégrationnistes FNI, ancien groupe armé de Peter Karim. Ces armes étaient jusque-là gardées au camp du contingent marocain de la MONUC à Bounia. Isaac Rimoyope.
Ces armes ont été remises au FRDC par la MONUC en présence des responsables de la CONADER et de la coordination du Centre antimine des Nations Unies, INMAG, en sigle. Parmi les armes qui ont été récupérées, il y a notamment des MAG, des RPJ et des AK-47. Toutes ces armes jugées utilisables ont été récupérées au mois de mai dernier auprès des ex-combattants du FNI. D'autres qui ne pouvaient plus être utilisées ont été détruites au cours des différentes opérations de démolition. Selon l'officier des liaisons des FRDC à la MONUC, avec cette remise, le nombre d'armes récupérées auprès d'environ 6300 ex-miliciens s'élève à 2700 armes depuis juin 2006. Le capitaine Olivier Mputu indique que le processus de désarmement se poursuit auprès des trois groupes armés de l'Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capit.
Les mines de la RDC doivent profiter réellement au peuple congolais. Déclaration du ministre des Mines ce lundi à Kinshasa au cours de la cérémonie du lancement des travaux de révisitation des contrats signés pendant la transition. Pour le ministre des Mines, ces travaux aideront à mettre fin au paradoxe que vit la RDC, un pays très riche mais dont la population est très pauvre. De leur côté, les opérateurs du secteur minier souhaitent que ces travaux soient menés dans la transparence. René Capita.
Pour le ministre des Mines qui a présidé l'ouverture des travaux, ces travaux représentent une étape importante dans la bonne gouvernance et la refondation de l'État. Salomon Banamouere.
Dans son discours programme devant les représentants du peuple, son Excellence Monsieur le Premier ministre avait placé le secteur minier national sous le régime tolérance zéro. Il est donc plus que temps que les mines congolaises profitent pleinement et visiblement au peuple du Congo. Pour ainsi dire, il tient à lever le paradoxe souvent banalisé et connu de tous. Je cite, « La République démocratique du Congo est potentiellement riche avec un peuple réellement et efficacement très pauvre. »
Soulignant pour sa part que ces travaux doivent concourir aux intérêts du peuple et des partenaires, le président du conseil d'administration de la GECAMINE a ajouté que les experts doivent être à la hauteur de la tâche vu la complexité de certains contrats. Assoumani Sekimonyo.
Je suis convaincu que c'est dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt du partenaire, évidemment ça ira pour le mieux. Mais il faudra aussi que la commission qui a été mise en place soit à la hauteur de la tâche. Je peux vous dire, moi j'ai eu la chance de négocier et de discuter de quelques contrats. Ce sont des contrats très très complexes.
Notons enfin que ces travaux s'effectueront avec le concours des organismes internationaux tels que le Centre Carter et la Fondation Sud-Africaine OCISA.
Au Nord Kivu, après plus d'une année de conflits sur la gestion des carrés miniers dans les secteurs de Bissié à Walikale, les protagonistes ont trouvé un terrain d'entente. Ils ont signé un accord le 3 juin dernier. La matérialisation de cet accord se fera sous l'encadrement administratif d'un service public dénommé Service d'appui et d'encadrement de la petite mine CSCAM en sigle. Les détails avec Bernardin Nyangui.
Ce contrat signé par la COMIMPA, qui représente les exploitants artisanaux de Walikale et le MPC, accorde désormais la gestion de Bissié au COMIMPA. Toutefois, cette dernière devra vendre 50% de sa production au MPC, les autres 50% pouvant être vendus à des tierces. Entre-temps, la MPC continue ses prospections sur plus de 120 000 hectares couverts par son permis de recherche dans le secteur, déclare Emmanuel Ndimoubanzi, chef de division des mines au Nord Kivu. Par le même accord, le CESCAM, un service public chargé de l'encadrement des exploitants artisanaux, veillera au respect du code minier en matière de l'exploitation artisanale et dans la carrière de Bissié. Pour Raimo Mouombo, président de COMIMPA, désormais la collaboration entre la population et MPC sur les mines de Bissié est harmonisée. Cet accord intervient alors que la population de Walikale, depuis plus d'une année, manifeste une forte opposition contre les activités de prospection de sociétés MPC sur les carrés miniers de Bissié. Goma, Bernardin Yangui, Radio Okapi.
Et puis, c'est depuis dimanche dernier qu'a expiré le délai de 60 jours accordé au sénateur Jean-Pierre Bemba par le Sénat pour des soins médicaux au Portugal. Abordé à ce sujet hier lundi, le premier rapporteur adjoint du Sénat, Lola Kizanga, indique que ce délai accordé par le Sénat peut être dépassé et n'avoir aucune interférence sur sa qualité de sénateur. Lola Kizanga, interrogé par Blaise Shindani Kambala.
Il y a des problèmes qui ont entouré le départ pour les soins médicaux du sénateur Bemba, problème que l'opinion publique le devine, et qu'aujourd'hui, sa famille politique et lui-même, et je comprendrai, puissent évoquer ces problèmes en termes de questions sécuritaires qui doivent être observées pour son retour. Il s'agit de questions éminemment politiques qui ne touchent pas la marche du Sénat et de ce point de vue, et au regard de la loi, le sénateur Bemba peut rentrer à tout moment. Le délai des 60 jours de soins médicaux qui lui a été accordé par le bureau provisoire peut être dépassé et n'avoir aucune interférence sur sa qualité de sénateur, pour autant qu'il reste dans le respect du règlement intérieur de notre institution.
Contacté, le ministre d'État après la présidence de la République a déclaré que la présidence répondra au MLC sur la préoccupation sécuritaire que ce dernier pose. Au Kasaï oriental, le comité consultatif local de Cabinda, organe en charge de la coordination des projets auprès de la coopération technique belge, a adressé ce lundi matin un mémorandum au responsable de l'ANER, Agence nationale de renseignement. Il dénonce le détournement par le commissaire de district d'une somme de 56 000 dollars américains sur des projets financés par la coopération technique belge. Esther Dalafina.
D'après le porte-parole de ce comité, cette somme était destinée au financement d'un nombre important de projets de développement en faveur de la population de Cabinda. Cette structure déplore également l'interruption brusque de la collaboration entre le comité consultatif local et la CTB. Elle estime que l'autorité numéro 1 du district serait à la base de cette situation. Contacté, Marcel Mouyamba, coordonnateur de la CTB Cabinda, s'est réservé de tout commentaire. De son côté, Ignace Manik Chiput, commissaire de district, rejette toutes ces accusations. Il affirme que c'est une affaire montée de toutes pièces. Il déplore par ailleurs l'attitude des membres de cette structure dirigée par le chef de cité de Cabinda. Il ne comprend pas pourquoi ce mémorandum a été adressé à l'ANR qui n'est pas concernée dans cette affaire. La coopération technique belge a disponibilisé plus d'un million d'euros pour des projets de développement en faveur de la population locale. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
À l'équateur, de nombreux habitants du village de Niaki, à 10 km de Guadolité, craignent de retourner dans leur village après les violences qu'ils ont vécues le week-end dernier. Selon la police nationale, 7 maisons de Niaki ont été incendiées vendredi dernier par les habitants d'Mboui, un village voisin. Les villageois venus d'Mboui cherchaient à venger la mort d'un des leurs. Béatrice Nabindi.
Le corps de la victime, Didier Diapindi, a été inhumé dimanche dernier au village de Mboui, après avoir passé 3 jours dans la forêt de Lekane, située à une 60 kilomètres du village. Des agents de l'ordre et quelques habitants étaient allés chercher le corps. Le beau-frère de la victime, qui est originaire du village voisin de Niaki, dit avoir tiré sur lui accidentellement alors qu'ils étaient à la chasse. Le chasseur a été arrêté pour fin d'enquête. Selon le chef coutumier du village de Mboui, Oabé Mboui, c'est la troisième fois qu'un habitant de Niaki tue un villageois de Mboui à la chasse. Pour plusieurs habitants de Mboui, ces 3 morts sont des actes de provocation et ils demandent aux autorités de trancher. Pour l'instant, le village de Niaki est sécurisé par les forces de l'ordre à la suite de la visite du commandant de la 3e région militaire. Mais de nombreux habitants qui s'étaient enfouis dans la forêt vendredi ont peur de rentrer au village et ils préfèrent dormir à la belle étoile dans la forêt. De Guadeloupe, Béatrice Nabindi, Radio Okapi.
Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.